de l'unicité. Au-dessus de ce que les païens nomment les dieux, il y a le Dieu suprême, unique, l'unicité, mais ne connaît pas Hachem, qui se dévoile comme providence de l'histoire des hommes. Ce Dieu unique, créateur, mais se dévoilant dans l'histoire des hommes, à travers Israël. Il est nommé Elohim, lorsqu'on le désigne comme créateur du monde. Il est nommé Hachem, lorsqu'il se révèle comme providence de l'histoire des hommes. C'est un point de théologie extrêmement important. Alors il y a un grand prêtre authentique d'un culte monothéiste authentique. Le Midrash dit, il s'agit de Shem, fils de Noach. Okay. Il le bénit, verset 19, c'est Melchisedec qui bénit Abraham. Vayomar, et il dit, Baruch Abraham, béni est Abraham, Léel Aïlion, au Dieu Tout-Puissant, connaît Shamaim Baretz, possesseur des cieux et de la terre. Mais il ne dit pas Hachem, c'est clair? Alors dans notre verset 22, lorsqu'Abraham répond au roi de Sodome qui lui dit, tu as fait des prisonniers, donne-les-moi, tu as fait du butin, garde-le. Abraham répond au verset 22, « Je jure devant Hachem El Elyon. » Vous voyez la différence? Donc, « Im mihout, si d'un fil, ou me'ad, ve'ad, serokh na'al, ou un lacet de souliers, comment on dit ça en français? Un lacet, ken? Une courroie, c'est un cordon, ken? Serokh. « Ve'im ekach mikol asher lach, si je prends de quoi que ce soit qui t'appartient, mais l'autre marre, tu ne diras pas Annie et Aïcharti et Abraham, j'ai enrichi Abraham. Biladai, quant à moi, Rak Asherachlu Anéalim, uniquement ce qu'auront mangé les jeunes gens et les soldats, Vechelek Anashim Asheralchuiti, et la part qui revient aux personnes qui ont marché avec moi, c'est-à-dire étaient dans mon camp pendant cette guerre, Aner Eshkolu Mamre, Hemikru, Elkam, eux prendront leur part. Donc c'est un passage très important, il ne faut pas lire avec inadvertance. C'est-à-dire Abraham, par vertu exagérée, vous vous rappelez de cette notion de vertu exagérée, a laissé en dehors des personnes et des valeurs qu'il aurait dû intégrer à l'identité d'Israël. Alors là où seront tombées ces personnes et ces valeurs, il faudra que sa descendance aille les rechercher. Vous voyez, nous avons là ici une motivation de la dispersion de la descendance d'Abraham, qui se rattache au problème dont nous avons déjà parlé, quelle est la cause, la raison pour laquelle, avant que l'histoire de sa descendance commence, Abraham s'entend dire, savoir tu sauras que ta descendance sera étrangère en un pays qui n'est pas le leur, ils seront persécutés, etc. Et puis, « Ve'acharechen yetzeu bilchush gadol » et après ils sortiront avec, on traduit, un grand butin, et c'est ce rechouche de grande valeur. Vous voyez, dès l'origine, Abraham est destiné à intégrer au foyer central de la sainteté qui se construit toutes les valeurs qui la concernent. Il les laisse en dehors. Est-ce que c'est clair? J'ai peur que je ne vous ai pas affolé. Okay. Et là où ces valeurs seront tombées, il faudra aller les sauver. Okay. Ah oui, je vous écoute. C'est-à-dire, je vais reprendre une analyse que nous avons eue assez souvent, mais probablement vous n'étiez pas là. Pour cela, ils seront donc minorité en pays étranger. Et c'est Maïmonide qui explique ça. Le seul fait qu'ils soient minorité en pays étranger et qu'ils s'entêtent dans leur différence, comme on le dit aujourd'hui, déclenchera le mécanisme humain, sociologique, de la xénophobie qui devient, en ce qui nous concerne, l'antisémitisme. Maïmonide a expliqué cela dans le 8e chapitre, de son traité des Shmona Prakim, des 8 chapitres, qui est une introduction au Pirkei Avot, qui est un livre très important, les Shmona Prakim. Et il dit ceci, « Une des grandes difficultés, c'est de comprendre pourquoi le Pharaon et les Égyptiens seront punis de la persécution des Hébreux, alors que, non seulement déjà c'est annoncé à Abraham, mais le texte de l'Exode dit clairement, c'est moi qui appesantis leur cœur, vous vous rappelez ?» Alors, Maïmonide répond ceci. Je crois que je l'ai cité la semaine dernière, où c'était un autre séminaire. Il dit, je vais le dire en termes un peu plus de culture contemporaine, mais c'est la même chose que dit Maïmonide dans son langage. Ce n'est pas que Dieu prévoit une fatalité que les Égyptiens persécuteront les Hébreux, et alors on ne comprend pas pourquoi ils sont punis. Si c'est Dieu qui décide qu'il persécuterait les Hébreux, pourquoi les Égyptiens seront punis de cela, le Pharaon et les Égyptiens? C'est clair la question. Il dit, c'est comme si Dieu décrit à Abraham les attendus de cette histoire de la dispersion, de l'exil, de sa descendance. Ça veut dire que, étant donné, quelles que soient les raisons pour lesquelles Israël sera en Égypte, étant donné qu'il y a des lois de la réalité, le fonctionnement des sociétés qui fait que une minorité étrangère s'entêtant à prélotant nécessaire pour ce qu'ils avaient à faire en Égypte, s'installant en Égypte, s'entêtant dans leurs différences, tout en se prétendant égyptiens à une certaine limite, ils déclencheront ce phénomène de la persécution des... C'est-à-dire, c'est comme si c'est presque inévitable, étant donné le fonctionnement du monde, mais ça ne veut pas dire que c'est un décret fatal qui rendrait incompréhensible la sanction qui les frappe, les Égyptiens. J'ai souvent parlé de cela, parce qu'il me semble que cette explication de Noémie est très claire. Ça veut dire, Abraham est averti. Puisque ta descendance sera, à cause de ces doutes d'identité qui viennent de vertus exagérées, destinée, le cas échéant, dans certaines circonstances, à être étrangère dans un pays étranger, il s'avère que ce sera l'Égypte, sache qu'ils seront persécutés. Pour notre sujet, mais après, ils ramèneront ce rechouche. Et alors, ça, jusque-là, c'est Maïmonide. Mais cette explication de Maïmonide, qui, à mon sens, est très claire, très éclairante, elle est quand même difficile. Ça voudrait dire que c'était inévitable. C'est comme si Dieu avait dit à Abraham que c'est fatal. Or, ça contredit le principe de la liberté morale, qui est le principe de l'enseignement de la Bible. Il faudrait que les Égyptiens soient des anges pour que ça ne se passe pas comme ça, puisqu'il est inévitable que l'existence d'une minorité étrangère s'entêtant dans sa différence déclenche, secrète, la réaction du phénomène de rejet de la xénophobie. Alors jusque-là, ça reste encore difficile, mais je crois qu'on peut l'expliquer d'une autre manière. D'après le récit biblique lui-même, il y a eu un temps où les Hébreux étaient légitimement à leur place en Égypte, dans la civilisation égyptienne. Mais ils se sont entêtés à rester alors que leur fonction avait pris fin. Pendant ce premier temps, les Hébreux étaient reçus dans la gloire en Égypte. Ils étaient en fonctionnement de mission messianique, reconnus comme tels par les Égyptiens, avec difficulté dans la première période. La présence de Jacob, de Joseph, des frères de Joseph en Égypte est racontée de façon majestueuse à la fin du livre de Bréchit. Et puis ils s'installent. Et alors c'est là qu'il y a une éclipse de 190 ans, okay, et c'est là que le récit qui commence au livre de l'Exode montre que les choses ont changé, et que les Égyptiens les considèrent comme un corps étranger à annuler, et la persécution commence. Voilà, j'ai un peu schématisé, mais je crois que c'est clair. Cependant, dans le verset Abraham, ça va jusqu'au bout. Comme si c'était inévitable que ça se passe quand même, que les Hébreux s'entêtent et s'installent et restent. Okay. Les deux choses sont vraies à la fois. Il faut essayer de résoudre cette contradiction apparente. Il n'y a pas de fatalité, et pourtant c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, je disais que dès l'origine de notre histoire, on voit que la Bible porte un diagnostic pessimiste sur cette issue des exils. C'est pas fatal que l'issue soit catastrophique, et pourtant on sait que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Dès l'origine, je pourrais reprendre le problème à la racine, à notre sujet. Les Hébreux, ancêtres d'Abraham à Ur-Kasdim, ont trop tardé, jusqu'à ce que, in extremis, Abraham est un rescapé de la fournaise de Ur-Kasdim. Les Hébreux en Égypte ont trop tardé, jusqu'à ce que, in extremis, Moïse en sauve une partie. Et ainsi de suite, au temps de Esther et de Mardoché en Perse, là il y a le miracle de la reine Esther qui rend Aman inoffensif, Ken. Et puis ainsi de notre temps, et c'est enseigné à propos du modèle des exils, qui est l'exil de Jacob chez Laban. Lorsqu'il revient de l'exil, il avoue lui-même, j'ai tardé jusqu'à présent et c'est pourquoi il a peur. Si vous voulez, je vous donne la référence de nous. Et de notre temps, il semble bien que quelque chose d'analogue s'est passé. Beaucoup de nos maîtres disent qu'on aurait pu économiser 1000 ans de l'exil actuel. Et que on s'est installé, on a trop tardé, alors les événements se sont déclenchés de façon catastrophique. Comme on est après la catastrophe, j'espère que c'est la dernière. Et alors on peut porter un diagnostic une fois les événements passés. Mais nous avons des textes qui le montrent de l'origine. De l'origine, je voudrais vous faire ce schéma. Vous rappelez ce schéma très rapidement. Déjà au niveau de la Torah, les prophéties concernant la fin de l'exil ou de la dispersion sont de deux ordres. Ou bien une issue heureuse, les rois de la terre porteront aux enfants, c'est déjà chez les prophètes, mais, ou bien une issue catastrophique. Et puis, chez les prophètes, on voit encore ces deux lignes. Mais les textes parlant de l'issue catastrophique sont plus nombreux, plus forts déjà, que les textes de l'eschatologie bienheureuse. Et ensuite, après l'époque des prophètes, dans le Talmud, on voit que les pages, les dizaines de pages consacrées par le Talmud à la description des événements de la fin des temps, eh bien, comportent beaucoup plus de pages qui craignent la catastrophe que celles qui prévoient ou souhaitent la messianité heureuse. Et alors après, dans la littérature de la Kabbalah, alors il semble que le diagnostic a été fait. C'est-à-dire que les rabbins ont diagnostiqué, après les prophètes, après la Torah, que Israël, le peuple d'Israël, préférera le retard. Alors, on voit les textes où on craint la catastrophe de plus en plus nombreux, de plus en plus massifs. Jusqu'au dernier des maîtres avant la Shoah, qui parle de la Peleta, Sheirita Peleta. Ils en parlent avec une grande crainte, ils parlent des rescapés, en parlant du retour. Voilà, en schématisant. Alors, c'est, dès le début, c'est comme ça. Alors, c'est un thème pour lui-même, un thème d'étude pour lui-même. Pourquoi y a-t-il, encore une fois, je ne veux pas dire cette fatalité, mais cette dimension d'identité de l'être de retard dans la messianité juive? Et que nous vivons de façon tellement, je cherche un terme, peut-être qu'il n'existe pas, que ça en devient incompréhensible. C'est cette contradiction apparente. L'année prochaine, et cependant tous les alibis du monde pour ne pas bouger. Depuis 4000 ans. Est-ce que c'est clair? Et les juifs sont, et les non-juifs sont tellement habitués à cela que ça leur semble une problématique cohérente. C'est normal qu'il en soit ainsi et que l'on vive une telle contradiction. Mais elle est signalée par la Bible depuis l'origine. Alors, je ne vais pas vous citer les dernières conférences où j'ai assisté, mais avec toujours une phrase qui dit, bon, ça va de soi que nous sommes aberrants, mais c'est comme ça. Okay? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc, et voilà donc, il n'y a pas de fatalité, et pourtant c'est ainsi que ça se passe. Et c'est, je reviens donc à l'explication de Maïmonide. Maïmonide nous dit, Dieu a décrit à Abraham un fonctionnement des lois de la nature. Au niveau des sociétés humaines, ça ne veut pas dire qu'il lui prophétise qu'ils seront persécutés. Comme fatalité, il dit, voilà, étant donné ce qui va se passer, alors ils seront persécutés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu décide qu'ils soient persécutés. La liberté reste. C'est-à-dire, s'il est arrivé ce miracle, que le peuple d'Israël, après la mort de Joseph, ayant joué son rôle et quitté l'Égypte, eh bien, l'histoire se serait résorbée d'une autre manière. Et on ne refait pas l'histoire à l'envers. Mais la Torah nous dit clairement qu'ils ont accompagné le cercueil de Jacob et ils sont retournés en Égypte. Okay. Vous vous rappelez de l'épisode.
Et pourquoi Jean-Dieu cirerait son cœur, puisque c'est inévitable que l'accès de Robinès,
que là,
nous sommes minoritaires dans un état donné, et que l'antisémitisme naît justement de ce fait que...
Voilà, c'est-à-dire que le pharaon, affolé par l'éventualité des plaies, pourrait laisser partir le peuple. Mais Dieu l'empêche jusqu'à ce qu'il expie ses fautes. C'est une des manières de l'explication, j'en ajouterai une autre. On va s'arrêter là, à cause de l'heure. Oui, on a dépassé l'heure, mais très rapidement. Alors, notez la référence, ça se trouve dans l'Exode, dans le chapitre que je vais vous dire. C'est le chapitre... 1 le chapitre 10, verset 1. Lorsqu'à un certain moment, Vous verrez le contexte. La persécution commence à s'apesantir. Dieu s'adresse à Moïse en lui disant Vayomer Hachem el Moshe, Bo el Paro, va chez le Pharaon, qui a nir bâti et libo avec les barbadas. Car c'est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, les maran shiti ototai et les bekirbo, afin de placer ses signes, les miracles des plaies, en son sein. Alors, on est en plein dans notre sujet, Ken. Tout se passe comme si je rationalise pour gagner du temps. Dieu dit à Moïse la chose suivante, prends patience, parce que ce que vous deviez faire dans votre passage en Égypte, vous n'avez pas réussi à le faire. Mais vous ne pouvez pas sortir avant que ça soit fait, c'est moi qui vais le faire. Jusqu'à ce que le Pharaon reconnaisse ce qu'il y avait à reconnaître, qu'il y a une providence au-delà du fonctionnement impersonnel des lois de la nature, ce qui était la base de la religiosité de la civilisation de l'Égypte. Je reprends en changeant quelques termes, que ce soit plus clair. Le passage des Hébreux en Égypte devait avoir cela comme objectif, transfigurer l'Égypte. Vous n'avez pas réussi à le faire, alors vous ne pouvez pas sortir tant que le Pharaon ne reconnaisse cela. Alors prends patience jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Et alors, c'est moi qui l'empêche de vous laisser sortir jusqu'à ce que ces signes que je veux placer en lui soient placés en lui. Voilà, vous reconnaissez sur ce que vous savez du récit. Je vous le dis, la manière dont la Kabbalah l'enseigne, le Pharaon ne savait dire que « mi Hachem », qui est Hachem, qui ? Je ne sais pas qui il est. Et « mi », retenez « mi », qui ? Il pose la question, qui ? Et Dieu dit « jusqu'à ce que je place « ototai elé », « messine cela »,« ototai »,« messine »,« elé », cela ». Le mot de « ot » en hébreu signifie un signe, mais ça signifie aussi une lettre, « otiot ». C'est comme si le texte voulait dire « jusqu'à ce que j'ajoute les lettres du mot « elé » à sa question « mi ». Et en ajoutant « elé » à « mi », on a le mot « elokim ». Oui, c'est clair. Bon. Alors, le raisonnement donc est très simple. La raison pour laquelle les plaies frappent le Pharaon, c'est pas pour l'obliger à laisser sortir Israël, c'est pour l'obliger à reconnaître la providence d'une providence. Et donc il faut qu'Israël prenne patience jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Et vous verrez d'ailleurs la réaction des sages de l'Égypte devant les plaies, c'est de reconnaître exactement, progressivement, qu'une volonté agit et que c'est pas le mécanisme impersonnel des lois qu'un sorcier pourrait maîtriser. Et alors cette révélation est progressive, la plaie se fait de plus en plus intelligente, elle choisit entre les Égyptiens et les Hébreux, et finalement, oh, il y a encore d'autres éléments, et finalement elle choisit chez les Égyptiens eux-mêmes entre le premier-né. Alors là, l'Égypte, le pharaon le premier, est obligé de se rendre à l'évidence, quelqu'un agit. Voilà, c'est clair. Vous voyez, donc, dans cet ordre, on n'a plus de temps. Alors, très rapidement, l'heure est passée.
Tu as parlé tout à l'heure de la différence entre Abraham et Melchizedek par rapport au nom de Dieu. Là, j'ai été étonné parce que Dieu dit pourtant à Moïse, ils ne m'ont pas connu sous le nom de Hachem.
C'est un autre sujet. Ils savaient que Dieu était Hachem. Mais Dieu ne s'est pas manifesté à eux en tant que Hachem. C'est un tout autre sujet. C'est dans la paracha de Vayera. Okay? Si vous voulez, on reprendra ça demain matin, mais ça prendra du temps. Voilà, c'est l'heure. Donc.